Bonsoir et bienvenue au Débat des extrêmes. Ce soir, aujourd'hui, ce matin, qu'importe quand vous l'écoutez, le débat portera sur la doctrine économique du protectionnisme et de l'interventionnisme face à la théorie libérale. Nos débatteurs ce soir seront camarades de gauche, camarades de centre, ainsi que le camarade de droite. Je les laisse se présenter en commençant par Monsieur du centre.
Philippe Carlo Giroux, camarade de centre.
Loïc Crona, camarade de droite.
Olivier Destoux, camarade de gauche.
Donc, nos débatteurs s'étant présentés les uns aux autres, nous pouvons maintenant commencer le débat. Qui aimerait parler en premier? Nous laisserons donc la parade aux camarades de gauche.
Merci, monsieur le présentateur. Donc, mon avis sur la question serait d'avoir cette idée de garder un certain protectionnisme, mais tout de même en ayant un échange international, c'est-à-dire d'avoir un marché interne qui peut être autosuffisant en cas de problème, en cas de crise économique grave où le marché international se retrouverait bien affecté, comme par exemple le grand crash économique mondial, crise climatique, guerre en Europe, toutes des choses qui semblent revenir de siècle en siècle. Et donc, d'avoir cette sauvegarde, un peu comme avec les énergies fossiles, qu'il serait préférable de laisser dans le sol, afin de se garantir une source d'énergie en cas de problème.
Personnellement, je dirais que je ne crois pas vraiment à ça, parce que la réalité, c'est que le monde, en fait... La réalité du monde, en fait, est faite que... on a besoin des échanges internationaux pour assurer nos besoins. Il est vrai qu'il peut y avoir des périodes de difficultés de flottement dans des crises comme la guerre d'Ukraine, les problèmes climatiques, etc. Mais sur ça, je voudrais réhabiliter le concept d'un auteur, je ne sais plus de quel pays il est, mais il s'appelle Nassim Nicholas Taleb. Il avait une notion qui s'appelle de fragile et d'antifragile. Et la réalité du monde, c'est que il est vrai qu'il y a des périodes où nous sommes entre guillemets plus fragiles, c'est-à-dire que nous voulons plus de croissance, mais moins de, c'est-à-dire de justement prenons plus de risques, fait que genre on décentralise toutes les chaînes de production, par exemple à Taïwan, en Chine, etc., qui fait que nous on peut grossir économiquement plus grandement, mais qui nous expose au risque de ce qui peut arriver dans ces pays-là. Il est vrai que nous sommes vers une période d'antifragilité au sens que ce sont les pays qui vont vers une plus moindre décentralisation de leur chaîne de production qui risquent de s'en sortir en raison des différentes crises. Mais ça ne, pour moi, ne discrédite pas autant le libre-échange parce que, qu'on le veuille ou non, c'est le célèbre exemple du crayon hein, que cité plusieurs Milton Friedman et d'autres, j'oublie de quelle histoire, mais peu importe. C'est pour fabriquer un crayon, il faut de la gomme, il faut du métal, il faut du bois. Et vous n'allez pas les amener dans un même pays parce que c'est simplement pas rentable. Donc, la réalité, qu'on le veuille ou non, c'est qu'il faudra toujours une décentralisation de la production, surtout à l'époque moderne, et que le protectionnisme pose un problème en ce sens qu'il fait en sorte que des pays qui, par exemple, ne seraient pas rentables de produire certaines choses, ben, le deviennent. Et ça fait que les moyens de production sont mal alloués et qu'on pourrait produire mieux et plus, mais on s'en empêche pour des raisons protectionnistes et pas nécessairement pour des raisons fondamentalement rationnelles.
Je considère que le protectionnisme est un avantage pour les nations qui savent l'utiliser avec modération. C'est propice pour le développement économique durable qui est un parfait équilibre entre... l'environnement, l'aspect social et l'aspect économique. Le libre-échange à 100% n'offre pas le poids qu'on recherche pour l'environnement et pour l'aspect social.
Effectivement, c'est très intéressant comme point de vue. C'est un point de vue que je partage en bonne partie. Mais c'est aussi l'idée d'avoir cet échange entre les pays. C'est fondamentalement une bonne idée pour avoir du développement technologique puisque ça permet d'avoir non seulement les ressources des autres pays, mais également les idées des autres pays. Si on était une nation 100% isolée, disons, et que nous n'avions pas recours, disons, à l'Asie, par exemple, pour le développement technique ou à l'Europe, nous n'avancerions pas à la même vitesse, c'est pas?
Totalement.
Oui, mais si j'ose dire, c'est tout le problème. Le problème de vouloir du protectionnisme, c'est, en fait, ça condamne finalement nos entreprises à être justement restreintes dans leur capacité de développement vis-à-vis des autres pays. Et ça fait en sorte que les entreprises, justement, avec le protectionnisme, sont de moins bonne qualité, mais les gens achètent pareil parce qu'ils n'ont pas de choix. Parce que c'est plus rentable d'acheter, finalement, à cause du protectionnisme, c'est plus rentable d'acheter, finalement, quelque chose qui est fait chez nous, alors qu'ailleurs, ce serait mieux fait pour le même prix, mais parce qu'il y a des douanes, bah, c'est plus rentable d'acheter chez nous. Donc, ça, à la fois, pénalise les ménages, ça pénalise, au fond, les entreprises extérieures et nos entreprises à nous, parce qu'il ne faut pas croire, c'est une illusion, que si tu fais des barrières tarifaires aux autres entreprises, les autres ne vont pas le faire. Donc, tu pénalises aussi tes entreprises à l'exportation. Donc, vous êtes perdant sur tous les tableaux, dans le fond, vous et l'autre pays. Et ça ne me paraît pas vraiment si rationnel que ça.
Alors, de qualité, les produits qui ne sont pas faits ici, entre toi et moi, je vais te demander, qu'est-ce qui est mieux entre un produit fait au Canada par une main-d'œuvre adulte, dont les droits sont respectés et non violentés, comparé à une main-d'œuvre chinoise faite par des petits enfants dont leurs droits sont violentés sur pratiquement tous les aspects?
Pour te répondre, t'as deux parties dans ton affirmation, la partie droit de l'homme et la partie qualité. La partie qualité, c'est que c'est moins cher et plus qualitatif, puisqu'on n'est pas, par exemple, si c'est Taïwan, par exemple, on n'a pas le contrôle, par exemple, des semi-conducteurs, les meilleurs semi-conducteurs au monde sont faits par Taïwan, qu'on le veuille ou non. Premièrement, c'est la première partie, la partie qualité. La seconde partie, la partie droit de l'homme, faut savoir que, premièrement, soit ils seront exploités par leur pays ou par nous-mêmes, dans les deux cas, parce que c'est des pays pauvres, donc ces pays-là ne peuvent pas se permettre d'avoir une trop bonne morale qui est heureuse, parce que nous sommes des pays développés, nous pouvons nous permettre, mais les autres pays ne le peuvent pas. C'est un fait malheureux, mais c'est ainsi. Bien essayer de les aider, mais il y a justement des associations, des organisations non gouvernementales pour ça. Mais j'entends bien l'argumentaire moral de ne pas vouloir acheter des vêtements faits par des enfants au Bangladesh. Je le conçois. Mais dans l'absolu, soit ils font cela, soit ils meurent de faim parce qu'ils n'ont pas de travail. Donc, c'est pas un bon choix. Je ne dis pas qu'il y a un bon et un mauvais. Je ne dis pas qu'il y a une possibilité d'avoir... le fait que de ne pas exploiter des enfants, ça résoudrait le problème. Les enfants seraient toujours exploités pour autre chose.
Ce n'est pas un argumentaire moral, mais tout simplement basé sur des faits et non une morale. Un produit qui sera fait... En fait, il y a différents secteurs sur le marché. Bon, je te l'accorde, le secteur des ordinateurs, je te le laisse. Mais par exemple, pour des chaises, pour des jouets, au Canada, on le sait, on a déjà eu dans les années 60, 70 et 80, dans les années 80, quand vraiment la mondialisation commençait à s'établir à grande échelle, on avait le savoir-faire. Et il n'y a rien qui nous empêche à rouvrir des usines puis à commencer à reprendre, à refaire des produits de bonne qualité. Parce qu'ici, c'est de meilleure qualité généralement.
L'expérience prouve le contraire, pardonne-moi, mais le fait qu'on les fabrique plus chez nous et on les achète plus chez nous, de produits faits de chez nous, veut bien dire que il est plus rentable et meilleur de les acheter ailleurs.
Il y a une différence la rentabilité et la qualité d'un produit.
Exactement, parce qu'en fait, c'est pas tant une question de qualité pour le marché international, surtout quand on achète quelque chose qui est fait, par exemple, en Chine ou au Moyen-Orient. C'est rarement une question de qualité, c'est plutôt une question de prix. Et pour réduire les prix, si on ne réduit pas dans l'innovation technique ou dans la qualité des matériaux ou le coût des matériaux, on va réduire dans le coût de la main-d'œuvre. Et donc, on va soit sous-payer les employés, soit straight up pas les payer, voire même engager des enfants parce qu'ils n'auront pas le choix. Et c'est de là que va venir l'idée que je partage plutôt, que l'éthique n'existe pas dans un système capitaliste, qu'on ne peut pas avoir un capitalisme moral.
C'est assez naturel qu'il n'y ait pas un capitalisme moral parce que les prix et le marché ne se passent pas sur la morale. Les prix d'un objet ne passent pas sur la morale. Parce que les gens, qu'on le veuille ou non, c'est malheureux, mais c'est ainsi, ils n'achètent pas selon leur morale. Mais pour revenir sur le point, en fait, c'est, pour être plus exact, c'est un rapport qualité-prix, en fait, qui fait qu'on achète quelque chose ou pas. Parce qu'on a les moyens et parce que ça a une qualité. Donc, on sera plus ou moins d'accord là-dessus.
Je vais te dire tout de suite, sur le marché, si tu t'achètes un sofa qui soit en cuir véritable, qui a été fabriqué en Chine et un autre en Italie, celui qui t'a pris en Italie va te durer plus de 30 ans. Celui en Chine va durer à peu près, je suis gentil, 10 ans.
Mais il n'aura pas le même prix. Et donc, c'est pour ça qu'on achète en Chine.
Mais le rapport qualité-prix, c'est aussi une question de qualité.
Une question de durée, en quelque sorte.
Aussi, oui, ben exactement. La qualité,
durée. Mais justement, c'est fait un rapport. Donc, tu auras un prix moins cher pour un produit qui va durer moins longtemps. Parce que malheureusement, c'est...
Donc, le rapport est le même?
Quoi?
Donc, le rapport est le même? Le rapport qualité-prix est le même?
Non, pas nécessairement. Parce que ça dépend de qui. Aux yeux d'un pauvre, le prix va compter plus que la qualité. Aux yeux d'un riche, la qualité va plus compter que le prix.
Donc, le rapport qualité-prix...
Parce qu'on n'aura pas tous le même... Parce qu'on n'aura pas tous la même vision de ce qu'un prix... Pour moi, un téléphone qui coûte 1 000 $ peut être trop cher. Pour un bourgeois du Texas ou de la Californie, ça ne valeur rien.
Donc, le rapport qualité-prix serait une idée de vision extérieure et non pas de vision de l'acheteur?
C'est une vision de l'acheteur, justement. C'est ce que je dis. C'est une vision subjective de l'acheteur qui a une vision selon sa position sociale, selon ses moyens... de la valeur de quelque chose.
Et donc, un produit qui serait fabriqué au loin dans une contrée où ils peuvent réduire dans le coût de la main-d'œuvre serait, pour être moins cher, serait plus avantageux à une personne à moindre revenu ici, alors que quelque chose qui serait fabriqué de plus haute qualité dans un pays où la main-d'œuvre est qualifiée et doit donc être payée, mais donc le prix est plus haut, serait plus avantageux pour un acheteur qui a plus de moyens. C'est bien ça que vous dites.
C'est à peu près ça, oui. Ça paraît logique. C'est un constat élémentaire. Hein.
Donc, c'était le débat des extrêmes à fréquence MB, la radio de tout le monde en mon bleu. C'était la partie 1. Nous reprendrons le débat à la partie 2 et nous vous souhaitons une excellente fin de quoi que ce soit que vous faites. À la prochaine fois.